L'échiquier du roi. Numéro 3, l'école de la nuit. De Xavier Mauméjean. Une réalisation de Michel Sidorov.
Dame Maria Núñez.
Votre Majesté a souhaité ma présence.
Je me réjouis toujours de vous voir. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que je vais devoir exiger de vous m'attriste. Dame Maria, je veux que vous quittiez définitivement le palais.
Aurais-je déplu à ma reine ?
Pas une seule fois, bien au contraire. Toutes ces années, vous avez su égayer mon triste quotidien par votre liberté d'esprit et la profondeur de votre intelligence. J'ai trouvé en vous une personne rare qui n'a jamais hésité à me parler sans détour.
Et c'est avec cette même franchise que je m'adresse à vous. Fille d'un savant juif torturé par l'Inquisition, jamais je n'aurais pu espérer connaître une si belle existence par la grâce de votre protection. Votre Majesté, pourquoi souhaitez-vous m'éloigner ?
Pour votre bien, afin que vous meniez votre propre existence, sans être uniquement spectatrice de la mienne. Mon père, le roi Henri VIII, ne m'aimait pas. Le vôtre vous a donné toute son affection et le goût du savoir. Dame Maria, utilisez votre science, bâtissez quelque chose loin du royaume d'Angleterre. Aidez le monde à devenir meilleur.
Serais-tu sourd ? N'es-tu sensible au chant des sirènes ?
Et vous ? Seriez-vous Neptune monté sur son hippocampe ? Ou un centaure casqué de fer ?
Au moins, n'es-tu pas muet ? Dis-moi, connais-tu Sir Francis Drake ?
Ça fait bien 3 ans que je n'avais pas entendu ce nom.
Diable ! C'est donc que tu vis en ermite ! Car toute l'Angleterre chante les exploits de l'illustre corsaire, vainqueur de l'invincible armada.
Des mots, du vent.
Mesure tes paroles, sous peine que je ne déclenche une tempête. Enfin quoi, tu pourrais manifester un peu plus de respect.
Si vous le dites. Et ce Drake, que lui voulez-vous ?
Cela ne te regarde pas. On dit qu'il habite non loin d'ici, dans une simple cabane pour pêcheurs.
Oh, à peine une remise à outils. Ah, laissons là ces enfantillages. Je suis Francis Drake.
Comment ?
Penche-toi et observe mon visage.
Seigneur, je vous prie de m'excuser, Sir Francis. Mais avec cette barbe et ces guenilles de marin...
J'ai eu bien les apparences. Au soir de ma vie, celle-ci me sied. Que me veux-tu ?
Eh bien, en fait, il s'agit d'une dame.
Ah, là, tu m'intéresses. Les bonnes histoires commencent souvent ainsi. Reste à savoir s'il s'agit d'un drame ou d'une comédie.
Je l'ignore, Sir Francis. Je ne suis que le messager. J'escorte une personne qui demande à vous voir. Celle qui se tient dans le carrosse, voyez, au sommet de la dune.
Et si je refuse ?
Vous rendriez la situation bien difficile à vous comme à moi. Dame Maria Núñez m'avait prévenu que vous réagiriez ainsi.
Dame Maria Núñez ?
Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Va, je te suis.
Cher Sir Francis, quelle joie de vous revoir.
Un plaisir partagé, Dame Maria. Vous n'avez pas changé.
L'air marin semble vous rajeunir. et votre peau est cuivrée comme celle d'un indien algonquin. On prétend que vous connaissez ce peuple.
Si fait, madame. Je l'ai fréquenté il y a fort longtemps. Les natifs d'Amérique ont plus de noblesse que nos aristocrates.
Cette cour que vous avez quittée depuis 3 ans, je suis venue vous y rappeler.
La reine Élisabeth me demande-t-elle ?
Non, l'initiative vient de moi.
Contre la volonté de notre souveraine ?
C'est précisément de sa volonté dont je souhaiterais vous parler. Ou plutôt de son humeur ténébreuse. Sir Francis, la reine est devenue mélancolique. Le jour, son humeur paraît sereine. Sa Majesté donne le change auprès des courtisans et ambassadeurs. Elle écoute les uns et les autres avec une égale attention. Mais nuit après nuit, Élisabeth connaît une tristesse intime qui la fait se plonger dans de sombres méditations.
La reine a toujours été mélancolique. Songez à son enfance, exilée, loin du palais. Elle s'efforce d'oublier, mais ne parvient qu'à se souvenir.
C'est vrai, mais jamais la noirceur ne l'avait gagnée à ce point. Sir Francis, vous devez l'arracher à ses tourments. Car pour ma part, je ne peux plus l'aider, mais je peux encore espérer.
Eh bien, soit. J'y consens.
Je vous remercie, Sir Francis. En tant qu'ami et au nom de la couronne.
Votre carrosse est surchargée de mal. Dame Maria, songeriez-vous à quitter le pays ?
C'est vrai. Élisabeth le veut. Je me rends en Hollande, pays de la tolérance, précisément à Amsterdam.
Et qu'allez-vous y faire ?
Mon frère Manuel y a fondé une communauté juive. J'aimerais y créer une école où l'on enseignerait la liberté de penser.
Dans ce cas, que les vents vous soient favorables et qu'ils vous mènent à bon port. Adieu, Dame Maria.
Qui va là ?
Sir Francis Drake.
Êtes-vous attendu au palais ?
Cela m'étonnerait.
Dans ce cas-là, désolé, je ne puis vous autoriser à rentrer.
Mais qu'est-ce qui te prend, tête de crécelle ? Ne reconnais-tu pas notre plus grand corsaire ? Allons, laisse-le passer. Ah, Sir Francis, ça fait chaud au cœur de vous revoir.
Et à moi de retrouver un visage amical.
Les choses ont bien changé depuis votre départ.
Dis-moi, sais-tu ce qu'est devenu mon dévoué Griffin ?
Lorsque vous avez quitté l'échiquier, Griffin a pris sa retraite. Il vit actuellement dans le Kent, avec une aimable matrone qui a dû lui donner une tribu d'enfants. Qui venez-vous voir, Sir Francis ?
Le docteur John Dee.
Bien sûr, comme à la grande époque. Attendez un instant, je vais vous annoncer. Sir Francis Drake, pour le docteur Dee.
Drake, si vous m'attendez. Entrez, entrez, mon cher.
Docteur Dee.
Prenez donc un siège. Voulez-vous un verre de vin ?
Volontiers.
Qu'avez-vous fait durant tout ce temps ?
J'ai contemplé l'océan. Mais vous le savez.
En fait, non, je l'ignorais. Je suis également éloigné des affaires du royaume et ne suis rentré que récemment. J'ai voyagé à travers l'Europe et ce que j'y ai vu ne m'a pas plu.
La guerre entre la France et l'Espagne ?
Ce conflit a au moins le mérite d'occuper 2 nations ennemies. Non, je pensais à une menace plus insidieuse, mais ô combien plus dangereuse. Un instant. Je voulais m'assurer qu'on ne nous écoute pas. Depuis peu, on murmure que je suis un conspirateur.
Qui prétend cela ?
Diverses factions aux pensées hostiles, têtes courbées et bouches menteuses. Certains prêtent foi à ces ragots, d'autres n'y croient pas, mais trouvent intérêt à les propager.
Je vois que rien n'a changé. Vous parliez d'une menace.
Oui, un usage abusif de la religion. Une forme de fanatisme qui défigure la foi. L'année dernière, mon ami le philosophe et astronome Giordano Bruno a été arrêté par le tribunal de la Sainte Inquisition à Venise. 10 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont hérésie, divination et sorcellerie.
Ouais, Giordano Bruno n'a qu'à se rétracter.
Pourquoi le ferait-il puisqu'il n'y a rien à rétracter ? Reste qu'il risque le bûcher.
À vous entendre, on pourrait penser qu'un même danger vous guette.
Vous ne croyez pas si bien dire ? Durant mon absence, on m'a retiré la direction de l'échiquier.
Vraiment ? Au bénéfice de qui ?
De Sir Robert Cecil.
Robert Cecil, fils du baron de Burleigh, le grand trésorier d'Angleterre. Cecil, qui a fait ses études à Cambridge en vue d'embrasser une carrière politique. L'intrigant Robert, qui occupe depuis 3 ans le poste de secrétaire d'État.
Oh, il a fait bien mieux depuis. L'ambition est un puissant levier.
Les temps changent, docteur dit.
Pas forcément en bien, dit Rec. Depuis que Sir Robert dirige l'échiquier, les pièces n'en sont plus blanches ou noires. Toutes sont baignées de gris. Parfois, j'aimerais me couler dans l'encre de la nuit en attendant le retour de la lumière. Mais je dois servir la couronne.
Qu'en pense la reine ?
Nul ne le sait. Et c'est à peine si je la croise.
Je dois la voir.
Espérons qu'Elisabeth aura plaisir à vous revoir.
Sir Francis, après tout ce temps, je ne sais si je dois me réjouir ou m'attrister.
Je suis ici parce que Dame Maria Núñez l'a souhaité.
C'est bien la seule initiative de Dame Maria que je pourrais déplorer. Venons-en au fait. Vous avez demandé à me voir ?
En effet, Votre Majesté, j'ai réclamé audience. Il fut un temps où je pouvais vous approcher sans tout ce protocole.
Ce temps est révolu. Dois-je vous rappeler que c'est vous qui en avez décidé ainsi, en démissionnant de l'échiquier, puis en quittant le palais ?
Vous ne m'avez pas retenu. Pire, vous avez tout fait pour que je parte, en nommant Robert Cecil, secrétaire d'État.
Nous y revoilà. Sir Robert Cecil est un serviteur dévoué.
Je le fus aussi, en bien des points.
Il incarne l'esprit d'un nouvel âge.
L'âge des enjôleurs, cette époque me déplaît.
Ne soyez pas injuste. Sir Robert sert le royaume avec une fougue dont vous faisiez preuve jadis.
Je ne jalouse pas sa fougue. Par contre, ses visées politiques m'inquiètent. Chacun sait que Sir Robert est en relation avec le jeune roi Jacques d'Écosse. Jacques est le fils de Marie Stuart, une reine dont vous avez ordonné l'exécution. Comment pouvez-vous accepter une telle contradiction ?
Sir Francis, au nom de notre amitié passée, ne rendez pas les choses difficiles.
Vous laissez Sir Robert comploter avec le fils d'une reine que vous avez fait décapiter ? J'ai l'impression que le royaume d'Angleterre est sans tête.
Pas un mot de plus, au risque de perdre la vôtre.
Non, vous ne le ferez pas. Votre Majesté n'est pas son père.
Non, en effet, je suis la reine. Et il ne peut y en avoir qu'une. Cela pour Marie Stuart. Maintenant, Sir Francis, j'ai appris à me passer de vos services. Allez dispenser vos conseils ailleurs.
Comme il plaira à Sa Majesté. Madame Maria, vous m'aviez demandé de tirer la reine de sa noirceur. Je crains d'avoir échoué. Le comble pour un marin.
Christopher Marlowe est mort !
Il a tué le poète Marlowe !
Par la peste, qui ?
Je ne sais.
Mais quand et où ?
C'est une tragédie.
Parle, te dis-je.
Aujourd'hui même, dans l'auberge de la veuve Hull, à Deptford, au sud-est de Londres.
Voilà, soldat. Je suis bien à l'auberge de la veuve Hull.
En effet. Mais interdiction d'entrée, c'est une scène de crime.
Et tu crois pouvoir m'en empêcher ? Ôte-toi de mon chemin !
À moi, qu'on arrête l'intrus !
Drake ?
Sir Robert Cecil.
Désolé, sir, il a forcé le passage.
Laisse-nous.
Drake. Que faites-vous là?
Je connaissais la victime.
Ah oui, cela me revient. Une enquête menée autrefois pour le compte de l'échiquier en compagnie de Christopher Marlowe. Eh bien, approchez-vous de cette table. Le cadavre de votre ami y est étendu.
Seigneur, on lui a enfoncé une dague dans l'œil.
On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Celle de ce pauvre Marlowe n'a rien vu venir.
Raillez donc à votre guise. Comment est-ce arrivé?
Allons, Sir Francis. Auriez-vous déjà oublié le caractère confidentiel d'une enquête? Après tout, je peux bien vous le dire, il s'agit d'une rixe d'ivrogne. Marlowe et trois autres clients avaient copieusement arrosé leur dîner, le poète s'apprêtait à dormir pour cuver son vin, oubliant de régler sa note, ce qui lui a été reproché, il y a eu échange d'insultes et l'affaire a dégénéré.
Où sont les trois hommes?
Je les ai fait incarcérer. Bien. Sir Francis, j'adorerais poursuivre cette conversation avec un ancien agent de l'échiquier, aujourd'hui hors jeu, mais comme vous le voyez, je suis occupé. Vous connaissez la sortie?
La peste soit de Robert Cecil. On ne se débarrasse pas de moi si facilement.
Psst, psst. Sir Francis?
Qui es-tu?
La veuve Hull. Cette taverne m'appartient. Et mon fils a eu l'honneur de servir sur votre vaisseau. Ah, Sir Francis, c'est une joie de vous recevoir. J'en dirai pas autant de l'autre gentleman qui m'a prise de haut.
Dis-moi, as-tu assisté au crime?
Pour sûr. Et ça ne s'est pas passé comme il vous l'a raconté. Maître Marlowe n'était pas ivre. Et ses trois agresseurs se sont jetés sur lui.
Connais-tu leur identité?
Ingram Fraser, Nicholas Kearse et Robert Paulet. Des individus pas recommandables, de ceux qu'on ne se réjouit pas d'avoir pour clients. Et pourtant, croyez-moi, je suis gare regardante. Mais il y a autre chose, Sir Francis. Faut que vous sachiez aussi que Maître Marlowe n'allait pas dormir pour cuver son vin. Non, je dirais plutôt qu'il s'apprêtait à coucher quelques verres. Tenez, j'ai gardé son billet. Voilà ce qu'il a écrit.
Noir est l'école de la nuit. Que les couleurs menacent.
Morbleu, drôlesse! Je t'ai dit de tenir ta langue!
Mon pardon, seigneur!
Ôte-toi de ma vue! Drake, quel est ce papier que vous tenez?
Simplement quelques notes. J'envisage d'écrire mes mémoires, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, je suis hors jeu.
Puis-je y jeter un œil?
Et souiller de mes griffonnages cet œil qui est la fenêtre de votre âme? Non! Non, Sir Robert. Je vous offrirai la version imprimée.
La mort de Christopher Marlowe m'attriste. Avec lui, nous perdons l'un des plus grands tragédiens d'Angleterre.
Je partage votre avis, docteur Dee. Bien que votre chagrin m'étonne. Après tout, Marlowe s'est moqué de vous dans ses pièces, ce qui lui a valu d'être enfermé à la Tour de Londres.
Et t'en change, Drake, et avec lui les hommes. J'ai révisé mon jugement concernant Marlowe. Il avait le courage de ses convictions.
Que voulez-vous dire?
Il y a 15 jours, le poète a fait l'objet d'une dénonciation anonyme. On l'a accusé de blasphème, d'hérésie.
Morbleu! Je croyais que l'Angleterre en avait fini avec les chasses aux sorcières.
Quoi qu'il en soit, les faits ont été jugés suffisamment graves pour que la chambre étoilée s'intéresse à Marlowe. Comme vous le savez, cette haute cour de justice délibère sans le concours d'un jury et peut prononcer n'importe quel verdict à l'exception de la peine de mort.
Qui préside actuellement la chambre étoilée?
Sir Robert Cecil.
Ah, décidément! Cet homme est partout. Quelle peine a prononcé la cour?
Aucune. C'est bien là le plus étonnant. La chambre a simplement signifié à Marlowe de rester à sa disposition et de ne pas quitter Londres.
Et pourtant, il a été tué à Deptford. Autrement dit, à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce qui l'a poussé à enfreindre le jugement?
Difficile de le dire. Nous savons tous les deux que Marlowe n'était guère prévisible.
Pensez-vous que la chambre étoilée l'ait fait exécuter?
Vous avez entendu Sir Robert Cecil. Officiellement, il s'agit d'une rixe d'ivrogne. Quels sont les noms des personnes impliquées?
Selon l'aubergiste Ingram Fraser, Nicholas Kears et Robert Paulet.
Seigneur! Drake, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Robert Paulet est un mercenaire qui travaille à l'occasion pour l'échiquier. Ingram Fraser et Nicholas Kears sont ses complices. Et on les soupçonne d'être des agents du roi d'Écosse.
Voyez-vous cela? Jack Stuart, dont Robert Cecil est un fervent admirateur. Le schéma général commence à prendre forme. Il y a autre chose, docteur Dee. Avant de mourir, Marlowe a écrit une sorte de vers. Tenez, lisez.
Noire est l'école de la nuit que les couleurs menacent. Jamais je n'aurais envisagé que la situation soit à ce point grave.
Docteur Dee, j'ai l'impression que vous taisez quelque chose.
Il me faut prendre mesure de l'affaire. Pour l'instant, je me trouve pieds et poings liés. Peut-être devriez-vous en parler à Francis Bacon, en qui j'ai toute confiance.
Ce nom ne m'est pas inconnu. Francis Bacon? Le jeune professeur de droit?
Oh, il est bien plus que cela. Maître Bacon est un esprit brillant, méthodique et patient qui s'intéresse à tout. Il a écrit quantité d'opuscules sur le refroidissement des cadavres, la variété des sons et des parfums ou la production de chaleur par les coups répétés d'un marteau sur l'enclume. Seule l'observation des choses l'intéresse. Et il n'a aucune idée préconçue. Pour vous donner une idée, on dit qu'il boit des perles dissoutes dans du citron afin de prolonger sa vie.
Singulier personnage, en effet. Il me fait penser à un certain docteur. Vous pensez qu'il consentira à m'aider?
Parlez-lui donc de Sir Robert Cecil, et vous verrez. Francis Bacon est son cousin.
En gros, voilà toute l'affaire. Maître Bacon, vous m'avez été recommandé par le docteur Dee.
Sachez que j'y suis sensible, Sir Francis. Pourriez-vous me passer cette cornue?
Attention, le liquide en est extrêmement volatile.
Si je vous ai bien compris, vous souhaitez nuire à mon cousin.
Dans ce cas, top là, je suis votre homme. Vous me donnez l'occasion de faire enrager ce cher Robert. Pourquoi lui en voulez-vous?
Il y a quelques semaines, en ma qualité de juriste, je me suis opposé à une levée d'impôts. Sir Robert Cecil n'a que modérément goûté mon initiative. En représailles, il m'a refusé le poste d'avocat général.
Vous connaissez le dicton? On ne choisit pas sa famille.
C'est bien vrai. Toutefois, ne croyez pas que seule la vengeance et la rancune personnelle me motivent. Votre affaire présente un véritable intérêt. J'y vois un défi intellectuel. Mais pour débrouiller l'énigme, il faudra utiliser ma méthode.
En quoi consiste-t-elle?
Ne pas accepter les faits tels qu'ils apparaissent. Nous devons les examiner avec patience. Un peu comme l'araignée qui tisse minutieusement sa toile.
Patience, patience. C'est bien là le mot d'un savant. N'oubliez pas que je suis un homme d'action.
Justement, c'est à la science d'éclairer l'action pour la rendre efficace. Je serai la tête et vous, le bras.
Merci de distribuer ainsi les rôles.
C'est à prendre ou à laisser, je ne suis pas allé vous chercher.
Sentez cet air, Bacon. Le vent du large chargé de sel. Oh, j'ai l'impression de revivre.
Je ne sens que le froid à travers ma cape.
Et que voyez-vous?
Des bateaux.
On parle de navires, Bacon, ou de vaisseaux. Je m'étonne qu'en fin observateur,
vous n'ayez pas remarqué celui-ci. Le Scoildef.
Un nom écossais qui signifie l'école noire, ou même l'école de la nuit.
Diable! Mais l'expression figure sur le papier laissé par Marlowe.
Et l'Écosse est un lieu qui revient tout le temps dans cette affaire. Je commence à croire que le danger rôde de ce côté. Un instant, voulez-vous? Hola, matelot! Depuis quand ce navire est-il à quai?
Soit neuf. Depuis 2 semaines, Milord, pour entretien.
Et quand doit-il reprendre la mer?
Il s'en retournera chez lui après-demain.
Deux semaines, Bacon. Voilà pourquoi Marlowe venait ici. Alors, qu'en pensez-vous?
Nous sommes confrontés à deux possibilités. Soit Christopher Marlowe cherchait à gagner l'Écosse, peut-être pour fuir la chambre étoilée et mon cousin. Soit un agent de Robert Cecil comptait prendre le bateau.
Le vaisseau?
Oui, oui. Et Marlowe surveillait le vaisseau. Dans tous les cas, je ne vois pas ce que l'on peut faire.
Puisque tout nous mène en Écosse, allons-y.
C'est une plaisanterie?
Du tout, mon cher Bacon. Il suffit de nous rendre à Scotland Yard. Au Xe siècle, le roi Edgar d'Angleterre offrit à Kenneth II, souverain d'Écosse, cette petite partie de Londres, afin qu'il puisse y être chez lui. Et c'est ainsi que Scotland Yard est une enclave des terres écossaises, en plein cœur de notre capitale.
Et donc l'endroit est l'équivalent d'une ambassade.
Ouais.
Une fois à l'intérieur, Drake, nous serons en territoire étranger. Plus rien ne nous protégera.
Nous verrons bien. Commençons par nous faire connaître. Sir Francis Drake et Maître Bacon.
Êtes-vous attendu?
Non, mais je pense que l'on nous recevra. Dites simplement Scoildef. Nous venons pour l'école de la nuit.
Un instant.
J'ai l'impression de me jeter dans la gueule du loup.
Une partie qui ne présente aucun risque ne mérite pas d'être jouée. Ah, le revoilà.
L'un de vos compatriotes finit de dîner, il va vous recevoir.
Sir Francis Drake, cela fait bien longtemps. Maître Bacon.
Lord Strange.
Par la peste! Tout doux, monsieur. Rengainez votre lame.
Enfin, quelqu'un va-t-il m'expliquer?
Lord Strange, 4e comte de Derby, seigneur de l'île de Man, et alchimiste. Il y a quelques années, cet homme a commis plusieurs meurtres et tenté d'éliminer toute l'aristocratie anglaise.
Bon, tout de suite les grands mots, Drake. J'ai simplement cherché à rendre la société meilleure, cela au bénéfice de notre souveraine.
Elisabeth vous a interdit de retourner en Angleterre. Que faites-vous ici?
Techniquement, Lord Strange se trouve en terre d'Écosse.
Vous me plaisez, jeune homme. Allons, Drake, laissons de côté les anciennes querelles et taisons nos rancunes personnelles. Je ne souhaite que servir la reine et je sais qu'il en va de même pour vous.
Alors, cessez de parler dans le vague. Et expliquez-vous.
Fort bien. Comme vous le savez, Sir Robert Cecil dirige l'échiquier du roi. Actuellement, l'organisation n'est plus au service de la couronne d'Angleterre, mais à la tête d'un complot.
Ce sont des accusations graves. Et quel serait le but de cette conspiration?
En finir avec la dynastie des Tudors, installer Jacques Stuart sur le trône de notre royaume.
Autrement dit, vous vous opposez au calcul de l'Écosse en séjournant dans son ambassade? Tout cela est ridicule.
Seriez-vous un agent infiltré?
Disons que je m'expose en pleine lumière pour être plus proche de la nuit.
À ce sujet, qu'en est-il de l'école de la nuit?
Ce nom désigne deux choses. C'est d'abord celui d'un vaisseau qui doit porter des informations capitales au roi d'Écosse, mais c'est également celui d'un groupe qui s'oppose à lui.
Groupe dont vous faites assurément partie. J'imagine que Christopher Marlowe était également des vôtres?
En effet. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de traduire le nom du navire. une plaisanterie de poète, manière de singer nos ennemis. Skoll Daff, l'école de la nuit.
Qui d'autre en fait partie?
Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud?
Lord Strange, vous saignez du nez.
Je ne me sens pas bien.
Qui d'autre appartient à votre groupe? Répondez-moi.
Je suis fauque.
Lord Strange est mort, Drake.
Un geste maladroit, ce n'est rien.
Mon Strange ?
Ce n'est rien, vous dis-je. Laissez-nous.
Je reviens avec des gardes.
Mais conne ! Le temps presse, que faites-vous ?
Je récupère les restes du dîner afin de les analyser.
Pourquoi ?
Je pense que Lord Strange a été empoisonné.
Voyez, son visage est entièrement jaune.
De l'arsenic ?
Non, l'arsenic est trop commun. Lord Strange était alchimiste, il l'aurait remarqué. Je suis pas expert en toxique, mais je pencherai pour de l'aconite, une plante qui vient d'Inde, ou du laurier rose. Les deux sont indétectables et à coup sûr mortels.
Si vous le voulez bien, remettons les leçons d'apothicaire à plus tard. Nous devons fuir.
Et voilà ! Messieurs, plus sympa ! Halte-moi !
Bacon ! Fuyez !
Mais
et vous ?
Mais par l'enfer, faites ce que je vous dis !
Arrêtez-vous !
Je vous suis !
Par la barbe de Copernic, j'ai bien cru qu'on n'y arriverait pas.
Nous revoici en bonne terre d'Angleterre.
Précisément, Sir Francis. Aussi, je vous ordonne de vous mettre à la disposition de la justice anglaise. Vous êtes en état d'arrestation. Garde, emparez-vous d'eux. Drake, je vous surveille depuis la mort de Christopher Marlowe. Mon cher cousin a cru bon de s'embarquer dans votre folle entreprise. J'exige à présent que vous cessiez immédiatement votre enquête.
L'échiquier du roi aurait-il des choses à cacher?
Enfin, Sir Francis. Vous le savez aussi bien que moi, l'échiquier a toujours des choses à cacher. Bien que dans cette affaire, les faits soient lumineux et parfaitement expliqués.
Le meurtre de Marlowe?
Ingram Fraser a avoué. Il était en état de légitime défense, ce que confirment Nicholas Kears et Robert Polley. Leur témoignage est absolu et irréfutable.
Un menteur effronté, les coquins qui connaissent leur rôle.
Le jury a trouvé leur version satisfaisante, l'affaire est donc classée.
Et le décès de Lord Strange?
Une tragique histoire d'intoxication alimentaire. Sa seigneurie a consommé des champignons vénéneux. Je ne doute pas que le cuisinier sera châtié.
Enfin, Lord Strange était alchimiste. Il n'aurait jamais pu s'empoisonner avec des champignons, personne ne le croira.
Peut-être. Mais cela fera beaucoup rire à ses dépens. Il s'en trouvera discrédité. Et l'on en restera là.
La chose est astucieuse, Sir Robert. Je vous le concède. Marlowe est mort, tout comme Lord Strange. À chaque fois, vous n'êtes pas loin.
Mais surtout, je suis proche de la reine, Drake. Ce qui n'est plus votre cas, vous n'êtes donc pas concerné.
Détrompez-vous, Sir Robert. J'écarterai tous les obstacles. Et tromperai vos projets.
Comptez-vous réellement vous opposer à l'échiquier?
Plus rude est l'ennemi, plus grande est la victoire.
Oh, épargnez-moi vos bravades de corsaire et écoutez plutôt. Sir Francis, par ordre de la reine, vous ne serez pas enfermé. Sa Majesté souhaite ainsi témoigner sa gratitude envers vos services passés. Quant à vous, Maître Bacon, il ne vous arrivera rien car vous êtes mon cousin. Mais tâchez l'un et l'autre de ne pas abuser de ses faveurs. Bien. Vous pouvez disposer.
Une dernière chose. Qu'en est-il de l'école de la nuit?
Ah, nous y voilà. Puisque vous souhaitez à tout prix en apprendre davantage, adressez-vous au docteur Dee.
L'école de la nuit. Une conjuration fomentée par vous, en plein cœur du palais. Et vous comptiez m'en parler un jour?
Baissez d'un ton, Drake. Les murs ont des oreilles.
Alors cessez de me faire tourner en bourrique.
Mais essayez de comprendre ma position. Vous démissionnez brutalement de l'échiquier. Personne n'entend plus parler de vous durant 3 ans. Et soudain, vous réapparaissez. Je me devais d'être méfiant.
Lors de nos retrouvailles, vous avez dissimulé et menti. La mer est moins changeante que cette terre, que l'on dit ferme.
La faute au marin qui s'en est éloigné. Où étiez-vous quand la couronne avait grand besoin de vos services? Il est facile de juger quand on a renoncé.
Tout de même, s'allier avec Lord Strange?
Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Nécessité fait loi. Nous devons manœuvrer en nos troubles. Vous devez le comprendre.
Alors expliquez-moi.
Fort bien. Comme je vous l'ai dit, Sir Robert Cecil est un fervent partisan de Jacques Stuart. Or, le jeune roi d'Écosse est l'auteur d'un ouvrage, La démonologie, dans lequel il affirme croire en l'existence des démons. Selon lui, leurs adorateurs se livrent à des pratiques occultes et formulent des maléfices. Le roi Jacques veut persécuter magiciens et sorcières, leur faire connaître par une mort violente les joies du paradis. Tout cela au nom de Dieu, et sans sa permission.
Ardent réquisitoire, docteur Dee. Mais où voulez-vous en venir? Quel est le rôle de l'école de la nuit?
J'y viens. Comme vous l'a dit Lord Strange, Sir Robert Cecil et l'échiquier du roi conspirent en vue de mettre Jacques Stuart sur le trône d'Angleterre. Si la chose se produit, c'en sera fini de la paix et de la tolérance, chère à la reine Élisabeth. Le fanatisme submergera notre nation, cherchant à tout contrôler. Christopher Marlowe, Lord Strange et moi-même ne voulions pas d'un avenir aussi noir. L'école de la nuit devait faire contrepoids au délire religieux. Hélas, je crains que nous ayons échoué.
Qu'en est-il du vaisseau Skolduff?
Le navire doit appareiller demain en direction de l'Écosse avec à son bord un émissaire qui doit rencontrer le roi Jacques.
Il pourrait également s'y trouver un passager clandestin. Après tout, ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas pris la mer.
Alors, vous me suivez?
Une dernière fois, docteur Dee. En souvenir du bon vieux temps. Et en vue d'un futur meilleur.
J'ai analysé ce qu'a consommé Lord Strange. Il est bien mort empoisonné. Une simple racine d'aconite a suffi. Cuite dans le dîner, elle a brutalement élevé la pression sanguine de la victime, ce qui explique le saignement de nez et à terme, l'arrêt du cœur. Mais il y a autre chose. Souvenez-vous du visage de Lord Strange?
Il semblait blême.
Non, pas blême, Drake. Mais parfaitement jaune, ce qui confirme l'usage de l'aconite. Et cela m'a conduit à une hypothèse plus générale.
Je vous écoute.
Christopher Marlowe est mort d'un coup de dague dans l'œil. Le poète était roux, connu de tout Londres pour sa tignasse de flamme, comme nous l'a rappelé la veuve Hull. Retenez bien ces deux éléments, dague et roux.
Jusque-là, je vous suis.
Bien. Le poison a tué Lord Strange, dont le visage est devenu jaune.
Ça fait beaucoup de couleurs.
Mais justement, Drake, les couleurs! Jusqu'à maintenant, nous n'avons accordé d'importance qu'au début du billet écrit par Marlowe, en négligeant le reste. Or, dans sa totalité, il dit « Noir est l'école de la nuit que les couleurs menacent. »
Admettons, où voulez-vous en venir?
À un livre connu de tous, l'Apocalypse selon saint Jean, précisément au passage consacré aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier, la guerre, frappe de l'épée et sa couleur est le rouge. Le deuxième, la pestilence, répand la maladie et sa couleur est le jaune. Ce qui correspond respectivement au meurtre de Marlowe et Lord Strange.
Bon sang, Bacon! Et vous vous prétendez logicien? Où avez-vous pêché cela?
Mais c'est vous qui m'en avez fourni l'idée. Vous m'avez dit vous-même que le roi Jacques Stuart est un fanatique religieux. Sachant cela, j'en ai déduit son symbolisme.
Et vous pensez que le souverain d'Écosse est directement impliqué ?
Lui ou ses partisans, peu importe.
Vous soupçonneriez votre propre cousin ? Sir Robert Cecil ?
Drake, ne discutez pas les détails et veuillez, je vous prie, observer le schéma général. Tout ceci est en réalité parfaitement rationnel. En ayant recours aux quatre cavaliers, nos adversaires proclament la terreur sacrée contre la magie et les enchantements.
La foi sévère contre l'alchimie, dirait le docteur Dee.
Exactement. Et puis, il faut se souvenir de ce que signifie l'Apocalypse. Elle proclame la révélation, l'avènement d'un ordre nouveau.
Autrement dit, ce à quoi aspirent les conspirateurs. Soit. Mais vous n'avez évoqué que deux cavaliers sur quatre.
En effet. Il reste la pauvreté, dont la couleur est le noir, et la conquête, qui est parée de blanc.
Noir est l'école de la nuit. À propos du docteur Dee, son nom signifie « noir » en gallois.
Et le blanc ?
Celle que l'on surnomme la reine d'hiver, Élisabeth d'Angleterre.
Docteur Dee, je vous attendais pour jouer cette fin de partie. Il semblerait que votre position soit menacée.
Votre Majesté, à travers moi, c'est vous que l'on vise.
Être une cible, n'est-ce pas le cas de toute reine ? J'ai moi-même fait jadis exécuter Marie Stuart.
Vous aviez vos raisons. Aujourd'hui, on cherche à vous perdre. La défaite est hors de question, vous devez rester la pièce maîtresse du jeu.
Aux échecs comme en politique, il faut se méfier des feintes. Vous pratiquez ce jeu depuis longtemps, docteur Dee. Peut-être trop longtemps.
Votre Majesté.
Lorsque j'étais princesse, vous avez fixé par horoscope la date de mon couronnement. Votre vision faisait alors montre d'ampleur. Prévoyant des années de règne.
Oui. Et aujourd'hui, on veut me le faire payer. Le peuple me blâme pour ce dont il me louait naguère.
Autrefois, justement, vous conceviez des stratégies à long terme. Là où maintenant vous n'improvisez que des tactiques passagères, jouant au coup par coup.
Pourtant, il me semble entrevoir la suite. L'adversaire a provoqué des attaques et a battu quelques pièces maîtresses. Le plateau se vide.
Cela libère l'espace entre le roi adverse et moi.
Votre Majesté, en vous approchant du roi Jacques, vous prenez des risques, sans être sûr de mettre l'adversaire en échec. Au mieux, la partie sera nulle.
Non, car je souhaite la gagner. Et pour cela, je vous demande de me servir une dernière fois.
De quelle façon ?
Parfois, pour vaincre, il est nécessaire de sacrifier une pièce de valeur. Mon vieil ami, il est temps pour vous de quitter la partie.
Je ne puis faire obstacle à votre volonté que j'ai longtemps servie. Je cède à vos instances et courbe la tête. Je vous prie simplement de m'accorder un peu de temps pour laisser les affaires du royaume en ordre avant de quitter le palais.
Qu'il en soit ainsi.
Dieu garde Sa Majesté. Mettez ces livres dans un coffre. Faites attention à mon télescope.
Et pour les dossiers en cours ?
Envoyez le tout aux archives royales. Mon successeur en disposera, quel que soit mon successeur.
Docteur Dee,
on m'a appris votre prochain départ. Je viens rendre hommage à un vieil ami.
Un hommage, dites-vous ? De ceux que l'on doit aux morts.
En ces temps troublés, les meilleurs conseillers sont peut-être en effet les morts. Mais vous êtes bien vivant.
Drake, J'ai conçu jadis l'idée d'un empire britannique et œuvré à sa réalisation. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. La disgrâce n'est-elle pas la plus cruelle des morts politiques ?
Une bien triste fin pour celui qui fut le conseiller privé de la reine et un grand joueur de l'échiquier.
Pour l'instant, la blessure est encore douloureuse. Mais j'ose croire que plus tard, quand le temps aura apaisé la plaie, il me restera le souvenir de belles parties menées ensemble. Tous ces complots et intrigues que nous avons déjoués.
La partie en cours n'est pas terminée. Trois cavaliers de l'Apocalypse ont été joués. Guerre, pestilence et pauvreté. Reste le cavalier de la conquête. Avez-vous une idée du coup à venir ?
Ah non, Drake. N'oubliez pas que j'ai été renvoyé. Quelles que soient les catastrophes à venir, dorénavant, il faudra se passer de moi.
Maître Bacon, je suis derrière vous, Sir Francis, dissimulé derrière une caisse.
Bien. Depuis notre position, on peut voir les gardes répartis le long du quai. À condition de parler doucement, ils ne devraient pas nous entendre. Le Scoy Duff va prendre la mer. Je dois grimper sur ce vaisseau.
Dans ma besace, j'ai de quoi vous procurer une sacrée diversion.
Chut ! Moins fort ! Comment allez-vous procéder ?
Par la pyrotechnie. Mercure, salpêtre et antimoine. Quelques jolies fusées et chandelles romaines donneront un beau feu d'artifice.
Pour l'instant, tout va bien. Les gardes ne bougent pas.
Voilà. Tout est prêt. Mon briquet. Dès que j'aurai allumé les mèches, vous n'aurez qu'à foncer.
Quant à vous, décampez au plus vite. Si l'on ne se revoit pas.
Cela a été un plaisir, Drake. Et un honneur d'accompagner le plus vaillant des corsaires dans sa dernière aventure.
Maître Bacon, vous incarnez le véritable esprit de l'échiquier. Vous auriez fait un parfait fou.
Je dois l'être, en effet. Il ne restait plus qu'à déclencher le feu.
Allez-y.
Les gardes se rapprochent. La voie est libre jusqu'au quai.
Il est temps de passer à l'action.
Bonne chance, Drake.
C'est quoi ce vacarme ?
Pas idée. Ça viendrait pas de l'auberge de la veuve Hull ?
Vous deux montez sur le pont. Il faut renforcer la sécurité.
As-tu identifié la cause de ce bruit ?
On dirait un genre de feu d'artifice, Sir Robert. Mais celui qui a fait ça a disparu.
Par tous les saints. Va dire au commandant que je veux prendre la mer au plus vite.
Tout de suite, sir.
Sir Robert Cecil, vous sentez l'acier de madame sur votre gorge. Aussi ne tentez rien.
Sir Francis Drake. Bien sûr.
Êtes-vous celui qui doit contacter le roi Jacques ?
Non. La personne se trouve dans la cabine du commandant.
Ouvrez la porte ! Seigneur,
je pense que vous pouvez abaisser votre lame. Pour ma part, je vais vous laisser.
Sir Francis, le temps est venu de parler.
Ma surprise est complète. Élisabeth d'Angleterre, en personne, qui s'en va rencontrer Jacques Stuart, le fils de la reine Marie que vous avez fait exécuter.
La rivalité comme les alliances sont affaires de circonstances. Elles changent selon les époques. Marie m'était dangereuse. Son fils me sera utile.
Ne craignez-vous qu'il cherche à la venger ?
Je suis sans héritier. Le roi Jacques d'Écosse espère étendre son pouvoir. Nos intérêts convergent. La lignée des Tudors s'éteindra avec moi. Mais le royaume est plus grand qu'une maison. Il demeure quand les souverains passent et trépassent. La reine est morte. Vive le roi !
L'Angleterre aux mains d'un catholique. Feu le roi Henri VIII doit s'étrangler dans la tombe.
Dites plutôt en enfer. Mon père aurait préféré comme successeur un singe avec un chapeau. Et pourquoi pas le pape en personne, plutôt que mon cousin d'Écosse. J'ai déçu mon père en naissant fille. L'histoire exige que je lui déplaise encore.
Enfin, Jacques Stuart, un fanatique. Cet ouvrage dont il est l'auteur, La démonologie, n'est que ténèbres de l'esprit. Sa foi en l'existence des sorcières est d'un autre âge. Votre royaume pour un fanatique ?
Jacques m'a surprise. Je le savais pieux, mais pas superstitieux.
En créant l'école de la nuit, John Dee, Christopher Marlowe et Lord Strange ont cherché à vous avertir.
La nuit luttant contre les ténèbres. Je tâcherai de m'en souvenir. Mais il est trop tard pour reculer. Rien ne se fait sans reproche.
Je comprends mieux le rôle de Sir Robert Cecil. Longtemps, j'ai cru qu'il avançait masqué et cherchait à vous trahir. Mais il a toujours été un proche du roi d'Écosse. En fait, Sir Robert était l'homme de la situation. Bien plus que je ne pouvais l'être. Vous l'avez nommé à la tête de l'échiquier et m'avez poussé à partir. Dame Maria Nunez, le docteur Dee et moi-même, vos plus fervents serviteurs, vos plus fidèles amis, un par un, vous nous avez éloignés, faisant le vide autour de vous.
Il ne pouvait en être autrement. Je me coupe des personnes que j'ai profondément aimées, comme je me trancherais les membres. La douleur est terrible, mais je dois la supporter. Je n'ai été ni épouse, ni mère, parce que j'ai choisi d'être reine. J'ai été amie et amante. Mais l'union des trois couronnes exige que je sacrifie ceux que j'ai aimés.
L'union des trois couronnes ?
Jacques Stuart apportera l'Écosse au royaume d'Angleterre et d'Irlande. Ainsi, j'aurais permis ce rapprochement jusqu'alors impossible et réalisé le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni ? L'histoire est plus imprévisible qu'une tempête en haute mer. Foi de marin ! Mais à présent, je sais que vous tenez le cap. Dame Maria Nunez, vous croyez mélancolique, perdue dans de stériles pensées. Elle n'avait pas lieu de s'inquiéter.
Inquiète. À mon endroit. Est-ce pour cela qu'elle est allée vous chercher ?
Elle était votre dame de confiance. Vous aviez toute son affection. Comme vous avez la mienne.
Aujourd'hui encore ?
Plus que jamais. Ma reine.
Chère sœur Francis, l'histoire sera peut-être à mon égard plus sévère.
Qu'importe l'histoire et son jugement, le temps nous emportera, les saisons se suivront, mais vous serez pour toujours la reine d'hiver que servit et aima un corsaire.
Autre chose pour ces messieurs ?
Non, cela ira. Maître Bacon, puisque tout a commencé dans cette auberge, levons nos verres à la mémoire de Christopher Marlowe, poète, aventurier et ami courageux.
À Marlowe.
Trinquons aussi à la conclusion de cette affaire. Après quoi, il n'en sera plus question.
Vraiment, Drake, un Royaume-Uni.
Ce sont les mots de la reine.
Anglais, Irlandais et Écossais liés ensemble. Par la sagesse de Salomon, je demande à voir.
Et justement, maître Bacon, qu'allez-vous faire ?
M'adapter au temps qui s'annonce. Pour cela, je flatterai Robert Cecil, mon cher cousin, tout en continuant à me dévouer à la science. Qui sait ? Peut-être finirai-je un jour grand chancelier et baron. Et vous, Drake, que comptez-vous devenir ?
Oh, ce n'est plus à mon âge que l'on change. Alors je vais faire ce que j'ai toujours fait, naviguer sur les mers.
Vers quelle destination ?
L'Amérique. Précisément, la Caroline du Nord, sur une île qui se nomme Roanoke. L'endroit est planté d'un petit comptoir anglais et peuplé d'Indiens algonquins. Un lieu, pour ainsi dire, vierge. Voilà ce à quoi j'aspire. Un monde nouveau.
C'était L'échiquier du roi, numéro 3, L'école de la nuit, de Xavier Mauméjean, avec Arnaud Bédoué, Francis Drake, Audrey Stupovski, Marianne Nunez, Sabine Hautepin, Elisabeth Première, Jean Ocotrel, John Dee, Jean-Benoît Souille, Robert Cécile, Nicolas Gonzalez, Francis Bacon, Georges Bigot, Lord Strange, Nicole Sigal, la veuve Hull, Olivier Peigné, le cavalier, et les voix de Johann Proust, Ange Amiel, Zelda Pérez, Loïc Urcastagnou, Stéphane Sestac, Cécile Arnaud, Christina Crévillaine, Élise Aubé, Marine Laurent. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Dalia. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.